Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Leloup pour parler de l'Apocalypse. Jean-Yves Leloup, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théologien, philosophe, traducteur et auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur les fondements du christianisme et la philosophie comparée des religions. Nous vous avions reçu l'année dernière pour le Dictionnaire amoureux de Jérusalem, paru chez Plon. Et nous vous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour votre traduction et présentation et interprétation de l'Apocalypse de Jean chez Albin Michel. Alors voilà un livre, l'Apocalypse, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis de nombreux siècles et qui semble un peu à nouveau d'actualité parce qu'effectivement, avec cette fameuse prophétie Maya du 21 décembre 2012, de plus en plus de gens s'intéressent à la fin du monde. Alors voilà un grand livre qui nous parle de la fin du monde. Dites-nous quelle est votre déjà relation personnelle avec cet ouvrage. J'imagine qu'il vous intéresse depuis longtemps. Avant de le retraduire, vous avez dû le méditer pendant longtemps. Comment vous l'avez découvert et vécu de manière personnelle ?
Je crois que c'est ma relation avec Saint Jean, hein, donc déjà son évangile, ses épîtres, mais là avec l'Apocalypse, j'ai l'impression de rentrer davantage dans son intimité, et à travers cette intimité, avec l'intimité profonde de l'être humain, c'est-à-dire ces moments où justement tout s'effondre. Hein. Parce que l'Apocalypse, c'est pas seulement au niveau cosmique, social et économique, c'est aussi personnel, c'est lorsque nos croyances, nos représentations, nos attachements, tout nous est enlevé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien ? Et que dans ces moments-là, c'est vrai que le langage de la philosophie, le langage explicatif ne suffit pas. Et là, il y a une descente dans l'inconscient. Je crois que Jean a vécu un moment de catastrophe à la fois personnelle et collective, puisque c'est sa propre communauté qui s'effondre, qui est persécutée. Il est descendu dans ses profondeurs où il a rencontré toutes ces images, hein, qui appartiennent non seulement à son inconscient, mais à l'inconscient collectif de la culture dans laquelle il se trouve. Et donc pour moi, c'est vrai que le fait d'avoir expérimenté, hein, certains états, pas seulement de dépression, mais toutes ces explorations qu'on peut faire avec un certain nombre de produits, de plantes qui nous emmènent dans des plans de conscience non habituels, non ordinaires, et que là il y a un langage qui m'a rejoint à ce niveau de mon être. C'est pour ça que là, c'est très personnel ce que je vous dis, mais
c'est ce que je vous demandais, c'est effectivement un langage de l'inconscient, hein, beaucoup.
Et que ce langage de l'inconscient vient nous rejoindre dans nos apocalypses personnelles, mais peut éclairer aussi les apocalypses collectives. Et là, le message de Saint Jean est très fort, c'est que tout s'effondre, sauf la vie.
Oui, c'est un grand livre. Vous diriez que c'est un grand livre de l'espérance ?
Ah oui.
Plus qu'un livre des catastrophes ?
C'est un grand livre de lucidité. C'est-à-dire, c'est vraiment le livre où la justice... La justice immanente, qui s'appellera la colère de l'agneau, se révèle, l'enchaînement des causes et des effets. Il y a une justice. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, comme on le voyait au temps de Saint Jean, c'est effectivement les conséquences, on pourrait dire, de nos actes. Donc il y a une grande lucidité là-dessus. Et une lucidité, je dirais, impitoyable. Il y a une justice. Mais plus profond que la justice, il y a la miséricorde. Et ça, c'est là la révélation, et c'est là qu'il y a de l'espérance, parce que s'il n'y a que de la justice, on est mal parti.
D'ailleurs, le mot apocalypse, c'est le mot grec qui signifie révélation.
Dévoilement. Dévoilement. Littéralement, oui, ce qui est sous le voile, ce que le voile des événements nous cache, ou alors ce qui transparaît à travers le voile des éléments et des événements. Alors là, quand le voile est transparent, on pourrait dire que c'est la parousie, hein, la plénitude de la présence qui se révèle à travers le voile. Ou alors, quand le voile se déchire, là, c'est l'Apocalypse. Mais c'est toujours un dévoilement du réel. C'est toujours la révélation de ce qui est vraiment.
De la vérité derrière le monde voilà. des apparences, du mensonge. Oui.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Apocalypse, on parle toujours des catastrophes, des événements qui arrivent, mais on ne parle jamais de ce qui se révèle à travers ça. Que ce qui se révèle à travers, que ce soit notre dépression ou à travers, je dirais, une situation difficile, tel ou tel événement, qu'à travers tout ça, il y a une véritable identité qui se révèle. Il y a je suis qui se révèle, justement.
Alors j'ai envie de vous poser directement la question, même si ce n'est pas en lien immédiat avec ce livre. Qu'est-ce qui pour vous, parce que c'est passionnant, qu'est-ce qui pour vous se révèle à notre époque, qui est une époque de catastrophe, qui est une époque de crise, qui est une époque de grande perte de repères, qu'est-ce qui se révèle ?
Justement, ce qui peut se révéler, parce que, encore une fois, pour qu'il y ait révélation, il faut des yeux pour la voir. Hein, que le grand drame, peut-être, de l'être contemporain, c'est justement, c'est les yeux pour voir qui manquent. Hein. C'est pas la source qui nous manque, c'est la soif pour y boire. C'est pas la lumière qui nous manque, mais des yeux pour la voir. Et je crois que ça, c'est la perte, on pourrait dire, bon, je sais pas s'il faut employer ces mots-là, mais la perte du nous ou la perte de l'ange. C'est-à-dire, c'est cette capacité de voir, je dirais, ce qui se révèle à travers les événements. Et je crois que ça, c'est peut-être ça qui se révèle. C'est notre manque de regard. Et là, on rejoint un petit peu une des étymologies possibles du mot athée. Hein, puisque athéos, c'est ce qui est sans vision. Hein, pour les anciens, c'est vrai que l'athéisme est une maladie des yeux. C'est-à-dire on ne voit plus l'être dans les êtres. C'est-à-dire c'est la perte de la théophanie. C'est la perte de
Donc on est dans une cécité, en fait. Voilà. Notre monde est dans une cécité.
Et ce qui nous est révélé, je crois que c'est notre cécité. La Jean nous dit qu'il voit. Et aujourd'hui, on voit que la moitié de ce qu'il voit. On voit bien les catastrophes, mais on ne voit pas celui qui vient, l'être qui vient, l'être qui se révèle à travers cette catastrophe.
Parce qu'en même temps, on sent bien qu'on est dans une période de grande mutation, de changement de civilisation, changement d'air, dans lequel la conscience de l'humanité évolue, bouge. Elle n'est plus figée dans ce qu'a été les grandes idéologies du passé. Il y a quelque chose qui émerge actuellement, dont vous faites partie d'ailleurs par vos enseignements, etc. On sent bien qu'il y a une sorte de changement. Jung le disait très bien. Vous êtes aussi très proche de Jung. On a fait une émission là-dessus. On sent bien que notre humanité est en train de vivre une élévation de la conscience. Mais du coup, ça crée une crise de tout ce qui ne fonctionnait pas, de tout ce qui était figé.
Tout ce qui était figé et arrêté, tout ce qui était fixé. Et ce qui se révèle peut-être, c'est le silence. C'est une qualité de silence et de paix, de calme au cœur de la catastrophe. C'est comme le centre au milieu du cyclone. Je crois que là, il y a cette révélation que, bon, quelque chose est là et que finalement, on n'a rien à craindre. Ça, c'est une des grandes paroles du livre. Ne craignez pas, je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à perdre ? On n'a à perdre que des illusions. On n'a à perdre que ce qui n'est pas l'être, oui, que ce qui n'est pas le réel.
Ce qui n'était pas juste dans le fonctionnement aussi de nos sociétés, etc.
Oui.
Et donc, ça craque à cause de ça, mais le fondement de la vie reste là. Les lois fondamentales sont là, il faut apprendre à les redécouvrir.
Oui, ce qui craque, c'est ce qui est... C'est pas seulement ce qui est craquant, mais c'est ce qui est mortel.
Mortifère.
Mortifère, et il y a... Justement, ce qui se révèle et qui n'est pas mortel, c'est ça qui est important. Donc là, pour moi, l'Apocalypse, c'est pas la fin des temps, c'est la fin du temps. C'est ce moment où par la souffrance ou dans certaines situations, le mental s'arrête. Et là, il n'y a plus de temps. C'est dans l'amour comme dans la douleur. Il y a un moment où le mental s'arrête. Et là, on est dans un silence qui nous... On est dans le kairos, dans ce fameux instant qui revient sans cesse dans le livre. Cet instant éternel, cet instant qui nous fait entrer dans le non-temps.
Alors, on va revenir un petit peu sur le livre de l'Apocalypse. Quelle crise a traversé Jean ? C'est-à-dire qu'en écrivant ce livre, qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Qu'est-ce qui se passe dans le contexte du christianisme de son temps ? Vous parliez de persécution tout à l'heure, je crois que c'est bien de camper un petit peu le décor et le lieu où a été écrit ce livre.
Donc là, on est dans les années 90-96, d'après, encore une fois, un consensus d'un certain nombre d'exégètes, c'est-à-dire le temps de Domitien, donc d'une grande persécution. Et pour Jean, donc effectivement, cette communauté d'Éphèse est persécutée. Et la raison, alors c'est ça qui est paradoxal, une des raisons pour lesquelles ils sont persécutés, c'est qu'ils sont athées. C'est-à-dire qu'ils n'honorent pas
les
dieux de la cité. Et les prêtres de la cité, encore une fois, qui sont au service de l'empereur. Cette manipulation aussi de se servir des dieux pour remplir les caisses de l'empereur. Donc, les chrétiens, je dirais, pour eux, il n'y a pas d'autre dieu que Dieu. Enfin, cette affirmation de la transcendance, pas d'autre réalité que le réel, justement, que l'infini réel, qui est toujours en retrait de toutes les réalités qui le manifestent. Donc il y a cette affirmation de la transcendance, et que le seul qu'ils peuvent honorer, c'est sa manifestation en Jésus. Hein, mais l'origine, le Père, la source qui s'incarne en lui, je dirais, et au-delà de tout. Donc là, il y a un refus de s'incliner devant l'empereur et devant tous les pouvoirs qu'il représente, qui est pour c'est la bête. Donc ils sont persécutés, exilés. Et là, on dira que à cette époque, Patmos était un lieu d'exil. C'est intéressant.
C'est une île en Grèce, Patmos.
Une île en Grèce, pas très loin d'Éphèse, aujourd'hui en Turquie. Et là, donc, selon la tradition, on nous dira qu'il va trouver une grotte, et dans cette grotte, il va recevoir des visions. Donc il va y avoir cette descente dans l'inconscient. Encore une fois, la question qu'il se pose, c'est comment est-ce que c'est possible ? Parce qu'il a vu le Christ mourir, être crucifié, il l'a vu ressusciter. Il a vu la nouvelle communauté émerger, donc il a été témoin de, je dirais, que la seule chose qui soit plus forte que la bêtise, que l'absurdité, que la mort, c'est l'amour, et que le Christ est vraiment ressuscité. Et puis tout d'un coup, de nouveau, c'est la persécution, c'est de nouveau l'échec. C'est-à-dire l'échec qu'a vécu le Christ, lui, et la communauté doit le vivre.
La vie à nouveau.
Et donc ça,
c'est l'absurdité, quoi.
Là, on est devant l'absurde, on est devant l'impensable, devant l'irreprésentable, et c'est là cette crise, cet apocalypse qu'il vit avec sa communauté, avec son corps, on pourrait dire, son corps ecclésial, c'est cette première communauté, les appelés qui sont rassemblés autour de lui et de son témoignage, et il va recevoir donc ces messages. Et dans ces messages, ce qui lui est dit, c'est qu'effectivement, il y a de la souffrance, il y a des catastrophes, il y a des séismes qui vont arriver, mais c'est pas tout. Au milieu de tout ça, il y a quelqu'un, il y a une présence. Et cette présence est une force, la force invincible et vulnérable, c'est de l'humble amour, comme dirait Dostoïevski. Et là, ça va être cette grande image de l'agneau. C'est-à-dire cette image de l'innocence en nous qui va faire face au dragon.
Alors ce serait intéressant, Aurélien Marche, je pense qu'on fasse quelques petites lectures du livre de l'Apocalypse pour ceux de nos auditeurs qui ne l'ont pas sous la main, et notamment dans la traduction que Jean-Yves Leloup, que vous avez faite, et je crois que vous l'avez faite à Patmos, donc
oui,
le lieu
Patmos,
où il a été écrit, ça doit être émouvant, ça, d'écrire dans la grotte.
Parce que les pierres parlent, les pierres parlent, les lieux parlent. Et...
Voilà, et donc vous avez retraduit à partir du grec, parce que c'est un texte
qui
a été écrit en grec.
C'est le seul texte qui est là, mais bon, c'est vrai que ce texte grec, il est plein d'hébraïsme,
oui.
Et que ça, faut peut-être le dire pour commencer, c'est un livre de citations, c'est-à-dire presque toutes les paroles de l'Apocalypse sont des citations du Premier Testament, des prophètes, de Daniel et tout ça. C'est pour ça que, sans doute, qu'on l'a mis à la fin de la bibliothèque
chrétienne,
oui. Parce qu'il récapitule bien, je dirais, tous les textes qui l'ont précédé.
Oui, et effectivement, il est même indispensable, bien sûr, de l'entendre, ce texte, comme Jean affirme l'avoir entendu avant de le donner. Parce que ce que j'ai choisi, évidemment, c'est l'ouverture, parce que ça nous pose ça pose le décor, si j'ose dire, et surtout, ça nous dit d'où vient ce texte. Et il est très intéressant de noter, et vous le développez dans votre commentaire, que c'est un texte qui est à la fois, qui rend compte à la fois de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a vu. C'est-à-dire qu'il a reçu un livre et il a en même temps fait une expérience visionnaire qui est, selon l'expression d'Henri Corbin que vous utilisez aussi, qui est de l'ordre de l'imaginal. C'est-à-dire qu'il a eu accès à une réalité plus réelle que la réalité matérielle et il l'a vraiment vue. C'est-à-dire ces images qu'il utilise, ce ne sont pas juste des symboles. Ce sont des réalités auxquelles il a eu accès avec les yeux de l'âme. Voilà. Mmh. Exactement, c'est une vraie présence. Et c'est ce que vous développez d'ailleurs dans votre commentaire, si je vous ai bien lu. Donc, Donc voici cette ouverture de l'Apocalypse. Dévoilement de Yeshua, l'envoyé de celui qui est l'être qu'il est. Il montre à ses serviteurs ce qui arrive maintenant. Dévoilement transmis par l'ange à son serviteur Yohanan, lequel atteste que sa vision est vraie, parole de celui qui est l'être qu'il est, empreinte de Yeshua. Heureux celui qui peut lire les paroles de la prophétie et méditer ce qui est écrit. Proche est l'instant. Yohanan, aux sept appelés qui sont en Asie, grâce et paix vous soit donnée de la part de celui qui était, qui est et qui vient de la part des sept souffles qui entourent le trône, de la part de Yeshua, le témoin, le fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il est celui qui nous aime, il nous délivre du péché par son sang. Il fait de nous un royaume de prêtres en présence de l'être qui est ce qu'il est, son origine, son Père, à lui louange et force maintenant et toujours. Amen.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie aujourd'hui de Jean-Yves Leloup. Nous parlons de l'Apocalypse à l'occasion de la sortie dans quelques jours de son nouvel ouvrage, l'Apocalypse de Jean chez Albin Michel. Nous venons de faire, Lélie Anvard, donc une lecture du début de ce livre, l'Apocalypse. Je tiens à préciser que les noms que vous avez utilisés, vous avez gardé les noms juifs.
Noms propres.
Donc Yohanan, c'est Jean. Yeshua, c'est Jésus. Lélie Anvard, vous vouliez revenir sur un point.
Oui, j'aurais, rien que sur ces sept premiers paragraphes, j'aurais trois questions à vous poser. Dans l'ordre, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément pourquoi il dit « celui qui est l'être qu'il est » ? Donc, qu'est-ce que ça implique que vous l'ayez d'ailleurs traduit comme cela ? Et puis ensuite, de nous préciser peut-être ce qu'il entend par les sept souffles qui entourent le trône. Et enfin, il fait de nous un royaume de prêtres. Alors je sais que c'est trois questions très vastes, mais je ne peux pas m'empêcher de vous les poser.
Mais déjà, rien qu'à partir du nom, hein, donc c'est vrai que traduire Jean par Yohanan, c'est rappeler que c'est un nom propre. Et puis que dans la pensée hébraïque, chaque nom a une signification. Hein. Yohanan, c'est la grâce, celui à travers lequel la grâce du Yod nous est transmise. Et puis alors ce grand nom, le grand nom sacré, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans le nom de Yeshua, hein, parce que dans le nom de Yeshua, il y a un écho du tétragramme. Alors ce tétragramme, c'est ce qu'on ne peut pas traduire. Hein, la révélation du nom à Moïse, hein, quand Moïse demande à Dieu quel est ton nom, quand il demande à cette flamme qui brûle dans le buisson quel est ton nom, ayez à chair, ayez, c'est intraduisible. Je suis qui je suis, tu verras bien qui je suis qui je serai. En tout cas, il y a un dynamisme. Hein, c'est un « je suis » qui est là, qui est présent et en même temps qui devient. Hein, je suis, je serai. Mais alors, il est l'être qui est ce qu'il est. Donc, c'est une façon de dire, il est ce qu'il est. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela, ni ceci, ni cela. Il est ce qu'il est, il est ainsi. C'est l'êtreté, l'inséité, on pourrait dire, du fondement. Et que c'est ce fondement qui se révèle à travers ces événements, à travers ces déchirements. Alors cette traduction, c'est une mauvaise traduction, faut bien le dire, comme toutes les traductions du nom de Dieu. Une des traductions que je préfère, c'est quand on traduit « je suis celui qui n'existe pas ». Parce que Dieu n'existe pas, il n'est pas un existant. Il est l'être à la source de tous les existants, mais lui-même est irreprésentable et innommable. Donc là, je dirais que c'est une façon de bafouiller. Il est l'être qui est ce qu'il est. Et dire qu'il est ceci, qu'il est cela, c'est...
D'où la nécessité qu'il se donne à travers Yeshua, justement, voilà. Puisqu'il est inatteignable en tant que tel.
Voilà, donc c'est le rappel donc du caractère irreprésentable, c'est la dimension apophatique, innommable de Dieu, mais ce Dieu se manifeste. Et ce qu'on connaît, le mot Dieu, est une manifestation. Ça aussi, c'est assez important parce qu'on peut faire de Dieu une idole. C'est-à-dire, on prend Dieu comme étant l'ultime réalité, alors qu'il est la manifestation de la réalité. La vacuité créatrice, je dirais, qu'on ne peut pas se représenter, prend une forme. Voici tout d'un coup quelqu'un, une présence. Et c'est à partir de cette présence que toutes les présences, que tous les niveaux de réalité vont devenir. On pourrait dire qu'il y a le réel, la réalité première, et celui qui est l'être qu'il est, la cause de tout, le principe de tout, c'est la réalité première qui va être racine de toutes les réalités secondes. Mais le réel est toujours en deçà.
Et d'où aussi l'utilisation donc de tous ces symboles. C'est-à-dire que c'est quand même un texte très fortement marqué par des images très intensément présentes. Et alors justement, qu'est-ce qu'il entend quand il y a certaines images qui sont difficiles à saisir pour nous. Quand il dit les sept souffles, quand il parle de tout ce bestiaire incroyable qui apparaît. Comment le lire? Est-ce qu'il faut le lire de manière symbolique, de manière comme si c'était une réalité à l'intérieur de soi? Comment aborder cette imagerie incroyable de l'Apocalypse?
Oui, c'est une imagerie et en même temps, c'est de l'ordre de l'expérience. J'aime beaucoup cette expression, les sept souffles, qu'on peut traduire aussi les sept esprits. Mais derrière le mot esprit qu'il y a là, c'est bien le pneuma. C'est bien la rouar, donc c'est vraiment cette haleine de vie, cette souffle. Et bon, c'est cette souffle, ça correspond peut-être aussi à sept lieux dans le corps humain, dans l'être humain, à travers lequel le vivant se manifeste. C'est-à-dire que le vivant s'incarne dans le souffle. Et ce souffle se manifeste à partir des lieux, des différents centres vitaux de notre être, qui vont se manifester dans des actes. Donc c'est cette souffle, et puis le chiffre 7, bien sûr, c'est un chiffre de plénitude, d'accomplissement. Cet accomplissement que manque le chiffre 6, qu'on va retrouver avec ce fameux chiffre de la bête 666, qu'on cherche à faire correspondre à Néron ou à d'autres. Il y a tellement de lectures, mais 6, c'est justement l'inaccompli. Le 6, c'est avant le 7. Donc c'est l'humain qui s'enferme sur lui-même. Qui ne va pas vers cet accomplissement. Donc c'est vrai que dans ce livre, tous les chiffres sont symboliques, mais ces symboles, je dirais, s'incarnent. Et ça s'incarne particulièrement dans le souffle. Alors de la même façon, les prêtres, faire de nous un royaume de prêtres, ça c'est le rappel que nous sommes tous appelés à devenir, comme le disait Dante, des souverains pontifes. C'est-à-dire, on a tous à faire le pont entre le créé et l'incréé, entre les deux rives de la matière et de l'esprit. L'être humain, justement, c'est ce paradoxe, c'est qu'il est un pont, c'est qu'il est un lien. Et que, justement, la présence de l'être, qui est ce qu'il est en nous, nous rappelle notre identité, qu'on a à tenir ensemble, je dirais pas seulement le côté spirituel, mais aussi le côté matériel, qu'on a à tenir ensemble l'humain et le divin. Ça rejoint aussi certains textes contemporains. Là, je pense au dialogue avec l'ange, où l'ange dit que l'être humain n'a pas à devenir un ange, mais nous avons à devenir des êtres humains, et donc à devenir des ponts. à devenir des prêtres. Donc un royaume de prêtres, c'est-à-dire que tous, pas simplement le personnel, comme dirait Jacques Maritain, le personnel d'une église instituée particulière, c'est un peu ce sens-là qu'on donne aujourd'hui au mot prêtre, mais prêtre au sens ontologique du terme. C'est-à-dire chacun de nous, notre mission en tant qu'être humain, nous avons à faire le lien entre le visible et l'invisible, entre l'éternité et le temps, entre le créé et l'incréé, entre le fini et l'infini. Nous avons à réaliser ce que Jésus, Yeshua, a réalisé, c'est-à-dire l'archétype de la synthèse.
Alors pour en revenir au texte lui-même, donc il a été écrit par Jean et il dit qu'il l'adresse à 7 églises, on retrouve le chiffre 7, Smyrne, Laodicée, etc. Alors est-ce que c'est encore un langage symbolique ou est-ce qu'on pense qu'il a vraiment écrit ce texte pour l'adresser aux 7 villes, aux 7 communautés chrétiennes qui existent à ce moment-là autour en Asie mineure?
Alors en Asie mineure, il existe effectivement 7 églises, mais plus que 7. Donc il a choisi 7, encore une fois, l'archétype du chiffre 7. Mais c'est vrai, vous pouvez aller aujourd'hui, pas en pèlerinage, mais tout simplement en voyageur, et découvrir les ruines de Smyrne, de Laodicée, de Pergame. Ce sont des lieux intéressants d'ailleurs, ou Éphèse. Là où il y a vraiment de très belles ruines, marquées aussi par la présence de Paul.
Et puis de Jean et de Marie, bien sûr.
De Jean et de Marie.
Qui auraient vécu selon la tradition à Éphèse, vous nous rappeliez tout à l'heure. Oui, donc il a pu à la fois écrire à un certain nombre d'églises, en même temps ça reste un langage symbolique, ça veut dire qu'il écrit à la totalité des églises.
Oui, mais ça c'est Saint Jean.
Les deux sont toujours vrais. Quoi. Il y a un langage réel et symbolique qui se juxtapose en permanence.
Saint Jean, et c'est ce que disent de plus en plus des exégètes aujourd'hui, c'est à la fois le plus concret et le plus mystique. Et peut-être le plus mystique parce que le plus concret. Ou peut-être le plus concret parce que le plus mystique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'expérience de l'infini, l'expérience du vivant, c'est aussi dans les détails. Quand on lit l'évangile de Jean, vous le savez bien, il y a une topographie, il y a des... Il y a les heures, il y a les lieux qui sont...
Il y a les émotions, Jésus est fatigué, etc. Voilà. C'est très concret.
Très concret.
Et en même temps, c'est l'évangile, évidemment, le plus mystique, théorique, théologique.
Oui. Et dans l'Apocalypse, on retrouve la même chose. Il y a des lieux concrets, il y a des expériences intérieures très concrètes, et en même temps, chaque lieu est symbole d'autre chose.
Et vous croyez que c'est Jean qui a écrit ce texte comme l'évangile, ou plutôt une communauté de disciples ? Comme le pensent plutôt les exégètes.
Moi, j'aime beaucoup l'icône, vous savez, de Saint Jean que vous voyez à Patmos. C'est-à-dire, il y a ce vieil homme qui a l'oreille ouverte vers le ciel, où il y a des rayons d'ailleurs qui viennent de la ténèbre, de cet obscur et lumineux silence. Et puis, à côté, il y a Prochoros, le secrétaire. Donc, je me dis que Jean reçoit des messages, donc vous l'avez bien signalé, il entend. Il entend, donc c'est avant de voir, il entend. Il y a ce son, il y a ces paroles. Et sans doute qu'il les reçoit en hébreu. Et Prochoros, donc, qui représente la communauté, va l'écrire. Donc Jean, pour moi, c'est celui qui reçoit l'inspiration. Mais le texte lui-même, je ne dirais pas que c'est Jean qui l'a écrit.
Il y a des scribes autour qui peuvent
écrire. Des scribes autour, qui est bien symbolisé par ce personnage qui est toujours charmant dans l'icône, et avec ses petits rouleaux en train d'écrire, et qui écrit dans la langue grecque, en tout cas.
Alors, on connaît un certain nombre d'événements annoncés par l'Apocalypse, mais plutôt que de s'appesantir sur telle ou telle fête, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une structure, là, une dramaturgie, que vous pourriez nous résumer en quelques lignes de toute cette grande vision ?
Alors, il y a je crois qu'il y a une grande logique dans ces visions. Il y a d'abord chacune de ces visions, je dirais, ça va toujours par deux. Donc, il y a à la fois cette vision on vient de l'évoquer, de Yod et Vavé, l'être qui est ce qu'il est. Et en face de cela, il y a l'abîme. Comme s'il y avait deux expériences qu'on peut vivre dans les profondeurs de notre être, d'une vacuité, enfin d'un irreprésentable qui est une plénitude, et d'une vacuité qui est plutôt étouffante. Donc il y a cette première vision, donc là on est dans l'irreprésentable, et puis ensuite il y a la vision de quelqu'un. Quelqu'un, donc avec le vêtement blanc, une présence. Et en face de ce quelqu'un, il y a Satan.
Donc là, Satan, celui qui divise.
Oui, celui qui divise, celui qui s'oppose, l'obstacle, en hébreu,
l'adversaire.
L'obstacle. Celui qui empêche, je dirais, la révélation de quelqu'un. celui qui empêche. Donc il y a de ce silence naît une voix, et de cette voix et de ce souffle un visage, et il y a déjà là quelque chose qui s'y opposerait, qui empêche l'avènement du sujet, on pourrait dire en nous. Et puis ensuite, ce quelqu'un, il a un cœur. Et là, c'est la révélation de l'agneau. Et face à l'agneau...
Donc l'agneau, c'est le Christ.
Oui, c'est le Christ.
Qui s'offre.
Je dirais, c'est le cœur de l'être. C'est le cœur de l'être incarné, donc qui va être capable à la fois de souffrir et peut-être de traverser la violence. Et là, en face, il y a le dragon, qui est, on pourrait dire, l'incarnation du chatan, c'est-à-dire les forces du mal, les forces de la destruction, les forces de l'ego, la volonté de puissance. Donc il va y avoir ce combat entre l'agneau et le dragon. Et ça, bon, c'est peut-être une lecture particulière, mais ce que j'aimerais rappeler, c'est que tout ça, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Le livre de l'Apocalypse, c'est comme un songe, ou comme un rêve. Chaque partie du rêve, c'est le rêveur. Chaque partie de l'Apocalypse, c'est une partie de nous-mêmes. Et c'est important de connaître son dragon.
Bien sûr, vous voulez dire qu'on l'a peut-être trop lu comme une histoire prophétique de l'humanité, et pas assez comme une lecture du combat spirituel personnel.
Oui, mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Mais c'est vrai
les deux peuvent être vrais dans
l'intention de l'auteur. Oui, les deux, je crois, sont vrais. Mais je dirais
Mais c'est valable de toute la Bible. Parce qu'on pourrait dire que la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte et tout, ça peut s'appliquer à la vie, c'est une symbolique de la vie spirituelle personnelle.
Enfin, c'était la lecture
Des pères de l'Église.
De Grégoire de Nice, enfin, quand il lit ça. Donc on pourrait dire que c'est la lecture de la Bible comme révélation de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre qui nous lit, qui nous dévoile, ce que l'on est, qui dévoile le dragon et l'agneau qui sont en nous, et leur combat.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre lecture passionnante de l'Apocalypse de Jean avec Jean-Yves Leloup qui va publier ce livre, l'Apocalypse de Jean, chez Albin Michel. Donc on continue un petit peu dans l'avancée de la trame, vous dites la révélation d'une présence à travers l'agneau et puis l'adversaire. Le dragon représente les forces du mal qui empêchent le dévoilement de cette présence. Comment continue ensuite se poursuit ce texte?
Oui, alors l'agneau, il s'exprime à travers les quatre vivants. Je crois que les quatre vivants, ça aussi, c'est passionnant. Bon, c'est déjà chez Ézéchiel, mais les quatre vivants symbolisent les quatre fonctions, c'est-à-dire notre intelligence contemplative, intuitive, notre puissance affective, le sentiment, la dimension sensorielle, charnelle, et la dimension intellectuelle, analytique. C'est ces quatre vivants qui, par la suite, dans la tradition avec saint Irénée, on dira aussi que ce sont les quatre évangélistes. Et c'est intéressant de voir que chaque évangile je dirais, explore ou une qualité du composé humain particulière. Il y a l'évangile de Jean, et bien sûr, c'est l'aigle, c'est davantage contemplatif. Tandis qu'on a l'évangile de Luc, on est plus proche de la terre, de la diaspora, enfin de l'annonce. Hein. Tandis que chez Marc, là, on est bien dans le thaumaturge, hein, dans le feu. Hein. Tandis que chez Matthieu, il y a beaucoup de discussions de rabbins. Ce qui est symbolisé là, c'est qu'à travers les quatre fonctions qui constituent l'être humain, lorsque ces quatre fonctions sont dirigées par l'amour, par cette force invincible et vulnérable de l'humble amour, eh bien, on va voir que ça va conduire certainement vers quelque chose qui ressemble à la Jérusalem céleste. Mais lorsque nos facultés ne sont plus dirigées par l'amour, mais par le dragon, c'est-à-dire la volonté de puissance, la volonté de domination, alors à ce moment-là, on va voir quelles vont être les conséquences. Et là, ce sont les quatre cavaliers, face aux quatre vivants, les quatre cavaliers. Et je trouve que là, il y a une analyse très, très intéressante et même troublante d'une espèce de logique qui conduit à la mort, de voir comment, avec le cavalier blanc, ou plutôt blanchâtre, hein, c'est-à-dire quand l'intelligence contemplative est pervertie en nous, lorsqu'elle n'est plus dans l'adoration, dans l'ouvert, elle va se tourner, je dirais, vers le monde d'une façon dominante et aura tendance à manipuler. Donc le cavalier, il est sorti pour vaincre. Donc il ne sort plus pour servir, pour aimer, pour faire fleurir la terre, mais pour la dominer. Donc, et ça va se communiquer au cavalier rougeâtre, c'est-à-dire que là, ça va être la perversion de notre faculté affective, bon, que ce soit dans la jalousie, dans la possession, dans cette volonté de posséder le territoire, et ça va être la source des guerres. Hein? Donc, la perversion, oui, de la force affective va engendrer la guerre, et ça, c'est bien décrit dans le livre, et ça va conduire, la guerre va conduire à la famine. Et puis enfin, il y a le cavalier verdâtre. Là, c'est davantage la perversion de la raison. Là aussi, si la raison est orientée, habitée par l'amour, c'est extraordinaire, parce qu'on a besoin de comprendre, d'analyser, etc. Mais si elle n'est plus habitée, conduite par l'amour, mais davantage par la volonté de puissance, elle va être instrument de manipulation et de dissolution aussi. On découpe les choses en quatre, et là, ça va être comme la peste. Vous vous rappelez que le mot la peste en hébreu, c'est très proche aussi d'Hébert, hein, et très proche du mot d'Abar. Donc la peste et la parole, c'est-à-dire la perversion de la parole. À travers la parole, on peut détruire, on peut abîmer. Donc là, ce cavalier est suivi par la peste, et avec cette couleur de la décomposition. Donc il y a les quatre vivants, les quatre cavaliers.
Alors dans toute cette aussi cette symbolique très riche qu'il y a dans le récit, il y a les fameux sceaux, les sept sceaux qui sont ouverts progressivement. On connaît le film de Bergman, le septième sceau. Oui. On ne se souvient pas plus très bien quelle est la symbolique de ces sceaux et du septième sceau.
Ben le sceau, c'est ce qui est en nous, c'est quelque chose qui est fermé et qu'il s'agit d'ouvrir. Hein. Et là, vous vous souvenez que Jean, il pleure, hein, parce qu'il ne voit personne de digne d'ouvrir les sept sceaux. Et que à ce moment-là, il a cette vision que le seul qui peut ouvrir les sept sceaux, c'est l'agneau. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions de notre être, il y a des lieux de nous-mêmes qui n'existent pas tant que l'amour n'y a pas pénétré. Tant que l'amour, ou quelquefois tant que la souffrance n'y a pas pénétré. Il y a des lieux de nous-mêmes qu'on découvre dans ces profondeurs-là. Donc ces sept sceaux correspondent, comme les sept souffles, je dirais, à peut-être sept lieux, hein, du corps humain, du psychisme humain qui demande à être ouvert, éveillé à la présence du vivant. Donc cette révélation, des hommes, des femmes ont vécu dans leur corps, je dirais, cette expérience de l'être, cette expérience de l'amour, je dirais, qui est peut-être l'issue à la violence. Parce que une des choses que nous rappelle le livre de l'Apocalypse, c'est comment répondre à la violence sans rajouter de la violence ? C'est une grande question. On peut répondre à la violence en répondant par une violence plus grande. Tu me tues un de mes soldats, je rase ton village. Avec Moïse, il y a déjà un grand progrès. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est un grand progrès. Une violence égale, on répond par une violence égale. Mais on est toujours dans la violence. On peut répondre à la violence par la conscience. Donc là, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue, pas la même. Et là, c'est important de rappeler aussi que ce que disait Gandhi, c'est que entre un lâche et un violent, je préfère un violent. Et que la non-violence, c'est pas l'acheter, c'est pas fuir, parce que là, c'est la complicité,
oui,
avec
c'est
la
dominer
violence.
Sa force.
C'est pire que ça. Tandis que là, il s'agit de tendre l'autre joue, ne pas être dans un système réactif.
De mimétisme.
Voilà, mais absolument. Bon, est-ce que ça résout le problème de la violence, hein? Est-ce que la conscience suffit? Malheureusement, ça, j'en suis pas sûr. Dans certains cas particuliers, mais quand on est en face d'un fou. Et surtout si ce fou a le pouvoir et tous les pouvoirs, là c'est redoutable. Et donc ce que va proposer le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire la seule réponse à la violence qui ne fasse pas de victime, qui ne rajoute pas la violence, c'est la puissance de la compassion, hein, qui est symbolisée par l'agneau, c'est-à-dire de prendre en soi la violence du monde, pas pour s'y complaire, alors là il faut être bien d'accord, mais pour la transformer, hein. Et c'est pour ça que ce symbole de l'agneau est vraiment très fort, parce que c'est un symbole non seulement de compassion mais de non-peur. Ça ressemble beaucoup, je crois, à certaines pratiques qu'on retrouve chez les Tibétains, vous savez, Tonglen, où on prend la nuisance du monde et en soi-même, hein, pour la transformer.
Pour la transformer, oui, on visualise une fumée noire qui se transforme en lumière.
Oui. Et là, l'image de l'agneau, c'est vraiment ça. C'est la force, la puissance de la compassion. Et ce que nous dit l'Apocalypse, ce qui parviendra au bout de cette violence, c'est pas une autre violence, c'est même pas la conscience, c'est la compassion qui aura le dernier mot.
Je veux dire un petit mot, vous nous disiez un petit mot du messianisme, puisque c'est une notion très importante dans la Bible. Le peuple juif donc est tout entier progressivement porté vers l'attente messianique. Pour les chrétiens, Jésus sera le Messie, mais il y a plein d'interprétations sur ce que doit être le Messie. On voit que Jésus va transformer la notion d'un Messie temporel qui rétablirait une sorte de royauté divine sur Terre à travers une notion d'un Messie spirituel. Hein. Il part d'un autre monde, le royaume n'est pas de ce monde. Alors, quel est le type de messianisme? Vous parlez d'un messianisme de l'instant, pour parler de l'Apocalypse. Expliquez-nous un petit peu cette notion messianique présente dans l'Apocalypse.
Oui, parce que je pense à ce que me disait un ami rabbin, il y a deux façons d'attendre le Messie. On peut l'attendre comme on l'attend quelqu'un sur le quai d'une gare, donc quelqu'un qui vient de l'extérieur, hein, qui l'être salvateur, providentiel, qui vient d'ailleurs. Hein, donc ça peut être une forme de messianisme. Et puis, il y a une façon d'attendre le Messie comme une femme attend un enfant. C'est-à-dire qu'une présence qui grandit en elle, qui non seulement germe, mais grandit et la remplit, et qu'elle va mettre au monde. Et là, on rejoint les images de l'Apocalypse, hein, de la femme qui est enceinte dans les douleurs de l'enfantement. Et là, ce qui nous est rappelé, c'est que le Messie, c'est effectivement une réalité qui est déjà en nous, en germe, et qu'il s'agit de mettre au monde, qu'il s'agit d'incarner. C'est une nouvelle conscience. C'est la présence du nouveau. Hein, donc là, le messianisme, effectivement, je parle de messianisme de l'instant dans le sens où ce n'est pas un messianisme horizontal, c'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs ou d'un autre temps et tout ça, mais c'est une présence qui s'éveille en nous dans l'instant. C'est l'avènement du non-mortel. Je dirais c'est la fin du temps. Et dans cette fin du temps, il y a l'être qui est ce qu'il est qui se révèle. C'est pour ça que je parle d'un messianisme de l'instant, c'est-à-dire que proche est l'instant, c'est dans l'instant que va vous être révélée la présence de je suis, la présence de celui qui est.
Et alors en même temps, dans l'Apocalypse, on peut toujours faire cette lecture effectivement spirituelle. En même temps, il semble qu'il y ait une sorte de temporalité, de déroulement dans le temps, avec des épreuves qui sont annoncées, des grandes catastrophes. Et puis, il y aura à un moment donné ce fameux millénarisme où le diable et ses acolytes seront enchaînés pendant 1000 ans, ce qui a donné lieu à toutes sortes effectivement de choses dans l'histoire humaine, avec des gens qui ont attendu, cru que le millénarisme arrivait, ils l'ont provoqué avec la révolte des paysans de Münzer, etc. Donc il y a eu plein d'exemples dans l'histoire d'interprétation du millénarisme. Et puis à la fin, le diable est à nouveau déchaîné, il y a un ultime combat eschatologique, un grand combat où le diable perd définitivement contre le Christ. Et puis, c'est la révélation de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire, finalement, l'apothéose, la victoire définitive de l'amour.
Oui, alors ça me semble important, parce que vous appelez, c'est ce que Saint Jean appelle la colère de l'agneau. C'est-à-dire, on le disait un petit peu tout à l'heure, il y a une justice. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer comme ça. Nos actes ont des conséquences. Nos actes personnels, nos actes collectifs, ça a des conséquences je dirais, cosmiques. Hein, donc, il se passe des choses. Il y a des, effectivement les eaux qui sont empoisonnées. Enfin, vous vous rappelez, Tchernobyl, en russe, ça veut dire absinthe. Donc, certains ont tout de suite dit, ben, voyez bien.
Oui, l'astre qui tombe et qui voilà. empoisonne les fleuves.
Voilà, et encore une fois, pourquoi pas? Mais ce qui est rappelé, ce que rappelle Jean, c'est qu'il y a une justice. Hein, c'est ça qui frappe quelquefois dans ce texte, certains diront, mais c'est vraiment le Dieu de l'Ancien Testament. Non, c'est la justice immanente dans la colère de l'agneau. On récolte ce qu'on sème. Il y a des conséquences à nos actes. Mais cette justice, elle est habitée en profondeur par la miséricorde. C'est-à-dire que c'est pas seulement la justice qui va se révéler, c'est aussi la miséricorde. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si tout s'effondre, ce qui ne peut pas s'effondrer en toi, c'est cette étincelle justement de la présence du vivant. Et que cet effondrement est aussi un moment béni, puisque c'est la révélation de ce que tu n'es pas. Là, tu vois que tu t'identifiais à tel ou tel personnage, ça s'effondre, mais il y a aussi la révélation de ce que tu es en présence de l'être. Et là, c'est la dimension de louange qui habite le... Hein, vous lisiez tout à l'heure, c'est le texte de l'Apocalypse, c'est l'annonce de beaucoup de catastrophes, mais c'est toujours ponctué de chants de louange. Hein,
et... Oui, et c'est peut-être d'ailleurs le paradoxe que dans la mémoire collective, l'Apocalypse éveille des peurs. Vous venez de dire que l'Apocalypse invite à se libérer de la peur pour aller justement vers l'amour. Ouais. Et c'est curieux, ce paradoxe, qui fait que les gens pensent à l'Apocalypse comme quelque chose qui fait peur. Mmh. Et effectivement, même les illustrations de l'Apocalypse sont quand même des illustrations un petit peu terrifiantes, comme les illustrations de l'enfer d'ailleurs, et qui sont faites pour justement inviter à une peur, je dirais, salvatrice, pour se corriger soi-même. Et c'est vrai que notre époque est très réfractaire quand même à ces images de catastrophes qui arrivent, que les lâches seront jetés dans le feu et les pervers seront punis, etc. C'est intéressant que l'époque y soit réfractaire, comme si ça nous faisait peur, qu'on veuille nous faire peur. Alors que, comme vous disiez, il y a quand même une justice immanente et il faut peut-être regarder les choses en face.
Je ne suis pas sûr, Lélie, qu'elle soit si réfractaire que ça. Donc, effectivement, on ne veut plus croire aux punitions divines, mais je pense que beaucoup de gens ont peur aujourd'hui de catastrophes tout simplement écologiques, économiques.
Ah oui,
on est dans des peurs très très fortes aujourd'hui, de type apocalyptique.
Oui, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que les gens n'aiment pas quand dans les textes, nous parle de choses comme ça. On préfère les passages où on parle d'amour.
Parlez-nous d'amour, justement. Comment ça se termine, l'Apocalypse?
C'est vrai qu'il ne faut pas rajouter de la peur à la peur.
Oui.
Et on utilise le texte de l'Apocalypse pour ajouter de l'angoisse à l'angoisse. Alors que, justement, le texte de l'Apocalypse vient nous rejoindre dans nos cauchemars, dans nos angoisses et dans des événements, mais pour nous montrer qu'il y a une issue.
Voilà, en fait, ce que vous montrez, et ce que montre aussi la fin, en particulier de l'Apocalypse, c'est que la peur peut être salvatrice parce qu'elle permet de nous sauver de nous-mêmes, si on a peur de nos propres actions, évidemment. Il ne s'agit pas d'avoir peur de quelque chose d'extérieur, mais d'avoir peur de ses manquements à soi.
Et c'est ça qui est mal interprété. Ça devrait nous conduire au discernement. Au discernement.
Et effectivement, la fin de l'Apocalypse, vous le montrez, hein, la fin, le milieu et le début d'ailleurs, partout il y a quand même un message d'espérance. Et l'idée que finalement, l'agneau est là pour sauver l'humanité d'elle-même, en quelque sorte. Alors je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y a plus. La cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vois descendre du ciel d'auprès de Dieu. Elle s'est faite belle, comme une épouse parée pour son époux. Et j'entends, venant du trône, une voix forte disant « Voici la demeure de Yod-Heh-Vav-Heh parmi les hommes. Il demeure avec eux. Ils sont son peuple. Yod-Heh-Vav-Heh est avec eux. » Il essuie toutes larmes de leurs yeux. La mort n'est plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Le monde ancien a disparu. Celui qui est sur le trône proclame « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit « Écris. » Ses paroles sont certaines et véridiques. Et il me dit « Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donne les sources d'eau vive, gratuitement. » Le vainqueur reçoit cet héritage. Je suis son Dieu. Il est mon fils.
Nous terminons cette émission avec Jean-Yves Leloup sur l'Apocalypse, qui hélas touche à sa fin. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, mais lisez le livre L'Apocalypse de Jean chez Albin Michel. Lélie Anvar pour l'agenda culturel.
Oui, je voudrais signaler la parution d'un très curieux ouvrage. Curieux pour nous d'ailleurs, parce qu'à l'époque médiévale c'était assez courant ce genre d'ouvrage. C'est un ouvrage de Pierre de Jean Olivy, un auteur du XIIIe siècle, et ça s'intitule « Traité des démons ». En fait, ça paraît aux belles lettres dans une édition bilingue. Et pourquoi j'ai choisi d'en parler ? Parce que, justement, on a là, dans ce « Traité des démons », écrit au XIIIe siècle, un exposé juste de ce fameux bestiaire qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse, avec une signification qui est donnée dans un sens vraiment... L'idée, c'est que le mal existe, c'est pas quelque chose qui est inexistant. Il existe et il prend la forme de ces démons. Et en même temps, il y a l'idée que, eh bien, l'homme peut se libérer de ses démons et comment il faut s'y prendre. En particulier, comment il faut passer par le personnage de Saint-François pour se libérer des démons. Donc c'est un texte difficile à lire, mais néanmoins très intéressant pour l'histoire de la théologie et pour comprendre justement ce bestiaire qu'on trouve, par exemple, dans l'Apocalypse. Et c'est donc paru aux belles lettres. L'autre ouvrage, c'est un ouvrage collectif sous la direction de Jacques de Guibon qui s'intitule tout simplement « L'homme a-t-il besoin du Christ ?» Il est évidemment très étonnant que vous n'y ayez pas participé, Jean-Yves Leloup, mais je vais vous le donner à la fin de l'émission parce que c'est une suite de textes extrêmement intéressants, parfois poétiques, parfois plus universitaires, sur la question du Christ intérieur. Pourquoi nous avons encore besoin du Christ intérieur de nos jours ?
Jean-Yves Leloup, vous vouliez dire un mot sur Arnaud Desjardins. La paix est toujours présente. De quoi s'agit-il ?
De ce qu'a toujours dit Arnaud Desjardins.
C'est un de ses livres ou c'est...
Oui, c'est son dernier livre.
C'est son dernier livre, oui. Qu'il est décédé donc il y a quelques mois.
Voilà, justement, ça m'avait beaucoup touché parce qu'il me l'avait envoyé. Et c'est vrai que c'est de rappeler que la paix est toujours présente quelque part en chacun de nous.
Il y a un documentaire de Jean-Luc Bouvray qui va être fait pour Arte sur les apocalypses de Jean-Yves Leloup et un DVD sera également mis en vente d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Jean-Yves Leloup.
Merci à vous. Merci.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Fabrice Midal qui nous parlera de la méditation. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Bon dimanche, excellente journée à tous.